Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La ville de Bordeaux en alerte. Le pic de la crue attendu dans l'heure. La Garonne pourrait atteindre son plus haut niveau depuis près de 30 ans. Nous serons en direct sur place. La France insoumise refuse de lâcher son député Raphaël Arnaud, deux de ses assistants parlementaires toujours en garde à vue dans l'enquête sur la mort de Quentin Derenck à Lyon. Et puis c'est confirmé, Habib Bey est le nouvel entraîneur de l'OM. Retour aux sources pour l'ancien capitaine marseillais.
C'est la pire journée niveau inondation avant une accalmie peut-être demain.
Toute une partie ouest de la France toujours sous l'eau. Une personne portée disparue dans le Maine-et-Loire après avoir chaviré de son canoë. La tempête Pedro, les coefficients de marée élevés, des rafales de vent, plusieurs phénomènes se conjuguent à Bordeaux qui se prépare à une crue aujourd'hui. Pierre Bourgès, vous êtes le correspondant d'RMC dans le sud-ouest, en direct donc de Bordeaux ce matin où l'on redoute un pic de la Garonne dans l'heure qui vient.
Oui, c'est ça. Je me trouve d'ailleurs au bord du fleuve, au nord de Bordeaux. Et là, il ne manque que quelques centimètres à la Garonne pour sortir de son lit. Son pic devrait être atteint à 7h44 précisément. Et si l'on redoute effectivement ce pic, c'est que le fleuve est d'un côté fortement alimenté par les crues en aval, en sud Gironde et en Lot-et-Garonne. Et de l'autre, la marée haute crée une sorte de bouchon qui empêche l'eau de s'évacuer. On pourrait donc atteindre à Bordeaux un niveau d'eau à 7 mètres. C'est proche des crues historiques de 1999. Le plan communal de sauvegarde a été déclenché hier pour assurer la protection de la population. Une première également depuis 27 ans. Selon la mairie, deux quartiers pourraient être particulièrement touchés. Celui de la Bastide, rive droite, et de manière plus inédite, celui de Bacalan, rive gauche. Et c'est ici que je me trouve ce matin. Des centaines d'habitations pourraient être concernées. Elles ont une particularité. La plupart sont des échoppes bordelaises. Vous savez, ce sont ces petites maisons sur un seul étage. J'aurais il ne suffirait donc que quelques centimètres pour inonder ces habitations qui ont essayé de se barricader ce matin avec quelques sacs de sable posés devant la porte.
Pierre Bourgès en direct de Bordeaux pour RMC. Il reconnaît avoir commis des violences mais nie avoir porté les coups qui ont tué Quentin Derenck à Lyon. Jacques-Élie Favreau s'est exprimé hier par la voix de son avocat, toujours en garde à vue ce matin, comme 10 autres suspects. On a appris hier qu'en plus de lui, un autre assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud faisait partie des interpellés ainsi qu'un ancien stagiaire, ce qui accentue la pression sur la France insoumise. Le gouvernement demande à LFI d'exclure temporairement Raphaël Arnaud de son groupe à l'Assemblée. Mais pour l'instant, Cyprien Pézeril, service politique d'RMC, LFI, fait bloc derrière son député.
On n'est pas du genre à lâcher les nôtres, assume un intime de Jean-Luc Mélenchon. Officiellement, Raphaël Arnaud est donc toujours soutenu par l'état-major insoumis. Mais à bas bruit, certains remettent en cause cette stratégie et accusent leur mouvement d'inconséquence, avec l'idée qu'en investissant en 2024 le fondateur de la Jeune Garde, ce qui devait arriver est arrivé. La violence en politique, ça n'a pas été suffisamment anticipé, déplore un insoumis de la première heure. Quand un cadre appuie, ça va de soi que c'était une mauvaise idée de faire alliance avec eux. Ils ne nous apportent rien, on n'avait pas besoin d'eux pour combattre l'extrême droite. LFI empêtrée sur la défensive et toujours plus isolée. Le RN appelle même un cordon sanitaire face à eux et une partie de la gauche dit plus jamais d'alliance avec les insoumis. Bref, c'est un bordel sans nom, s'inquiète un député.
Cyprien Pézeril, service politique d'RMC. Les patrons du Constellation ont-ils menti? C'est ce que laisse penser un nouveau témoignage dans l'enquête sur l'incendie mortel de ce bar de Crans-Montana en Suisse. 41 morts la nuit du Nouvel An. Le témoignage d'un videur, c'est une information BFM TV. Ce qu'il a dit aux enquêteurs, Célestin Bougère, accable les gérants.
Oui, lors de son audition devant la police de Sion hier, il dit avoir surpris une conversation entre Jessica Moretti, la gérante, et Jean-Marc, un salarié et ami proche du couple de propriétaires. Un échange pendant lequel Jessica Moretti aurait ordonné de fermer toutes les portes, sauf celle de l'entrée. Le but, que tous les participants à la soirée paient bien leur place. Un témoignage qui remet en cause la défense de Jessica Moretti et de son époux. Eux ont toujours assuré jusque-là que les salariés avaient pour consigne de laisser la porte de service ouverte. Elle était pourtant fermée le soir du drame. Une porte par laquelle une serveuse et plusieurs participants à la soirée ont tenté de s'échapper en vain au moment de l'incendie. Ce videur d'un soir assure par ailleurs n'avoir reçu aucune formation en matière de sécurité.
Peut-être une solution contre les faillites d'entreprises, en finir avec les retards de paiement. C'est l'objectif d'une proposition de loi examinée au Sénat aujourd'hui, contraindre les entreprises et acheteurs publics à payer plus vite les factures. C'est de nature à rassurer les TPE et les PME, Cassandre Brault.
Dans cette entreprise qui fabrique et commercialise du chocolat, les retards de paiement font partie de la charge mentale au quotidien. Yann Guégan est responsable commercial.
Tout a un coût. Ce chocolat, ça va avoir un coût. Donc, si on n'a pas de paiement qui rentre, on va avoir un problème de trésorerie, on va pas pouvoir payer nos fournisseurs, on va pas pouvoir nous payer nos employés.
Et ça empêche même le développement de l'entreprise.
On pourrait recruter, faire de nouveaux projets, s'implanter dans de nouveaux pays, mais là on est bloqué par ces paiements qui n'arrivent jamais.
Alors cette proposition de loi est saluée par Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises. Ces services sont de plus en plus sollicités pour des retards de paiement.
Depuis 2021, 2022, 2023, ça monte, et surtout en 2024 et 2025, on voit une accélération qui est très préoccupante dans un contexte délicat pour les entreprises.
Et les plus mauvais payeurs, ce sont surtout les grandes entreprises et les grandes collectivités territoriales.
Parce qu'il y a simplement un rapport de force. Une PME, une TPE ne peut pas se permettre de ne pas payer son fournisseur, souvent plus grand que lui, alors que c'est facile, malheureusement, pour un grand acteur, de ne pas payer sa petite structure, son petit fournisseur.
En 2024, les PME auraient bénéficié de 15 milliards d'euros de trésorerie supplémentaire sans ces retards de paiement, selon la Banque de France.
1 200 000 comptes bancaires consultés par un acteur malveillant, annonce le ministère de l'économie. L'auteur aurait usurpé les identifiants d'un fonctionnaire pour consulter le RIB, l'IBAN, jusqu'à l'adresse du titulaire du compte. La Direction générale des finances assure toutefois que cela ne permet pas de faire des opérations ni de consulter le solde bancaire. Plus de détails dans le journal de 7h30.
Et pour l'heure, il est 7h07 et en football, Habib Bey arrive sur le banc marseillais. Et
c'est officiel, l'ex-entraîneur du Stade Rennais est nommé comme coach de l'OM, club qu'il connaît très bien. Il en a été le joueur et le capitaine il y a près de 20 ans. Le Sénégalais a désormais la lourde tâche de remettre de l'ordre après des semaines de polémiques et de déceptions. Il dirigera son premier entraînement aujourd'hui, Clément Brossard.
Bon retour chez toi, Habib. C'est par ces mots que l'OM a officialisé hier soir l'arrivée de son nouvel entraîneur. Via un communiqué, le club souligne son attachement profond à l'Olympique de Marseille et sa connaissance intime de l'environnement marseillais comme atout majeur. Habib Bey s'est engagé jusqu'au mois de juin 2027 avec l'OM. Il dirigera sa première séance d'entraînement ce matin avant d'être présenté à la presse. Son baptême comme entraîneur marseillais arrivera vite, dès demain à Brest. Un stage à Marbella pourrait être effectué les jours suivants pour accélérer son adaptation et sa connaissance du groupe. Et dans cette période de transition, Marseille va également changer de président. Pablo Longoria, invité par le propriétaire Franck McCourt à tenir un rôle institutionnel, n'accepte pas cette décision et ne restera pas à l'OM. Son départ définitif aura pour conséquence la non-représentation du club au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel.
Et puis la France gagne 2 places au tableau des médailles aux Jeux d'hiver. On est 4e avec 17 médailles, la dernière en or, celle des biathlètes françaises sur le relais.
C'était le journal de Clara Gaby et il est 7h08 sur RMC. Écoutez, c'était le 14 janvier dernier à l'Assemblée nationale.
Il n'est pas vrai que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. Il n'y a pas de document à Bercy qui le montrerait.
Et pourtant si, voilà, Amélie de Montchalin, la ministre du Budget, qui est donc finalement contredite par ses propres services, les services de Bercy. 13 000 millionnaires ne payent pas d'impôts sur le revenu. Comment expliquer cette anomalie? Bonjour Sandra Demarque, vous êtes la représentante de Solidaires Finances Publiques. Ça vous met très en colère ce matin. Les riches ne veulent pas participer à l'effort collectif. Voilà ce que vous nous dites dans un instant. Et vous, je vous attends au 32-16 pour réagir. Il est 7h09, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story à la télé. Ce chiffre explosif, 13 000 millionnaires ont une feuille d'impôt sur le revenu à zéro, voire en négatif. Après la polémique le mois dernier, Bercy a finalement publié les chiffres et c'est 10% des foyers éligibles à l'impôt sur la fortune immobilière qui ne payent en réalité pas d'impôt sur le revenu. Un scandale démocratique pour vous, Sandra Demarque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire générale de Solidaires Finances Publiques, c'est le premier syndicat aux impôts. Comment on explique d'abord cette anomalie ?
Cette anomalie, elle est toute simple, c'est que c'est le système fiscal aujourd'hui qui le permet, puisque là, on parle bien d'un système d'optimisation fiscale, nous on appelle ça agressive, qui permet à un certain nombre, à une minorité, hein, mais pas des moindres, d'utiliser tous les leviers possibles, alors que la loi, le système fiscal français, pour ne payer aucun impôt sur le revenu.
Ça veut dire que c'est légal. Ils ne trichent pas.
On ne parle pas de fraudeurs fiscaux, on parle de millionnaires qui utilisent tous les leviers possibles pour ne pas payer d'impôts. Et en fait, on est à la crête de la légalité et de l'illégalité. C'est une certaine zone grise, mais tout est légal. Voilà, et ça c'est le système qui le permet, c'est le système, c'est les lois fiscales qui ont été menées et adoptées depuis un certain nombre d'années qui permettent cette anomalie.
Pour vous, c'est un problème démocratique parce que ça veut dire que l'adhésion à l'impôt de tous est menacée.
Ah ben tout à fait, et c'est surtout un problème démocratique quand une minorité de la population refuse, parce que là c'est l'idée c'est d'éviter de payer l'impôt sur le revenu, donc de refuse de participer à la solidarité nationale, au collectif, au choix de la société qui a été fait depuis des décennies. Et donc, c'est un vrai problème démocratique.
Oui, alors, vous dites qu'il refuse sciemment. C'est tout à fait possible qu'il y en ait une partie. Mais attention, dans la note, il est aussi écrit, je cite, « Il pourrait notamment s'agir de ménages retraités disposant de revenus modestes, mais ayant connu une forte revalorisation de leur patrimoine immobilier, par exemple à Paris ou dans certaines zones particulièrement attractives. »
Alors ça, c'est une minorité. Ça existe.
C'est une part de ces 13 000.
C'est une part. Mais la plus grande partie, ça, c'est une minorité hein, de gens qui ont vu leur résidence principale, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit, qui a pris beaucoup de valeur.
Et qui donc et fait qu'ils ont des patrimoines de plus d'un million, mais des revenus qui ne correspondent pas.
Donc ça, c'est une minorité. Mais là, on parle aussi de l'autre partie que cette note indique, c'est ceux et celles qui ont des revenus mobiliers extrêmement, un patrimoine mobilier extrêmement important, et qui font tout pour ne pas payer. Alors, comment ils font ça? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Ils utilisent le système fiscal. Par exemple, toutes les niches fiscales qui sont aujourd'hui...
C'est quoi les niches fiscales?
Alors, les niches fiscales, c'est des crédits ou des réductions d'impôts. Alors, vous pouvez en avoir si vous avez des enfants, par exemple, qui vont à la crèche ou qui sont en cours de scolarité, vous avez un crédit ou une réduction d'impôts. Mais c'est très léger pour nous. La plupart des niches fiscales qui profitent aux plus riches, aux plus fortunés, sont des niches fiscales qui rapportent extrêmement et qui réduisent massivement l'impôt.
Ils disent qu'il y a des travaux, ils déduisent les emprunts, les impôts. En fait, alors, ils arrivent à déduire et à faire en sorte que l'impôt sur le revenu arrive à zéro.
C'est ça. Il y a le rapport de la Cour des comptes récemment qui a indiqué qu'il y a un des crédits d'impôt les plus qui profite le plus aux plus fortunés, c'est par exemple l'emploi d'une personne à domicile, donc une nounou, un homme ou une femme de ménage. Ça, ce crédit d'impôt, cette réduction d'impôt, elle profite avant tout, et ça il y a des données très précises qui ont été données par la Cour des comptes, qui ne profitent qu'aux plus riches. Et donc ça permet de réduire l'impôt. Mais il y a aussi quelque chose qui a été fait dès l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017, c'est la réforme sur les revenus financiers. Donc avec la mise en place du PFU, donc la flat tax sur les revenus financiers à 30%, alors que ces derniers, avant 2017, étaient imposés sur le même barème que l'impôt sur le revenu. Sandra, donc ça baisse l'imposition
élière. Sandra Demarque, je rappelle que vous êtes à la tête donc du syndicat de la Direction Générale des Finances Publiques. Je voudrais que vous puissiez aussi en débattre avec Jean-Christophe qui nous a appelé au 3216 et qui nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Apolline.
Jean-Christophe, vous, ce chiffre, au fond, vous voudriez le remettre en perspective, il ne vous choque pas à ce point?
Mais 13 000 sur combien déjà?
Alors c'est 10% à peu près du nombre de nombre de personnes, de foyers, donc ça qui payent l'IFI.
Attendez. Non, Apolline, 13 000 sur combien de millionnaires? Parce que 10% des personnes qui payent l'IFI, ça veut rien dire.
Hein. Alors, on n'a pas le... Je vais être très précise, voilà. Jean-Christophe. Le chiffre le plus précis que nous ayons, c'est effectivement le pourcentage. C'est-à-dire que ces 13 000 foyers, ça représente 10% de tous ceux qui payent l'IFI, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune immobilière.
De ceux qui payent l'IFI, on est d'accord. Mais combien de millionnaires en France et combien des
millionnaires payent? Par ailleurs, il y a peut-être plus de...
Voilà.
Tout à fait.
À mon avis, 3 millions de millionnaires en France. Le millionnaire, c'est à partir de 1 million, hein. C'est pas non plus insurmontable.
Tout à fait. Par exemple, quand on est propriétaire à Paris, et c'est d'ailleurs une des questions qu'on se posait, a priori, on bascule très vite dans cette catégorie-là. Jean-Christophe,
donc,
ça ne remet pas en cause pour vous l'adhésion à l'impôt?
13 000 sur plusieurs millions. Oui. Déjà, on est dans l'épaisseur du trait. Deuxième chose, Madame Sandra, j'ai pas retenu son nom, juste son prénom, elle nous dit, c'est légal. Eh ben, c'est légal, point, barre. On ne discute plus, c'est légal. Le législateur, s'il n'est pas content, il change la loi.
C'est d'ailleurs, je pense, tout à fait votre position, Sandra Nomarque, si vous puissiez dialoguer avec Jean-Christophe.
Tout ce qui est légal n'est pas juste. Et là, on a la preuve que le système fiscal aujourd'hui, il est injuste pour la majorité de la population. Est-ce que c'est normal que des millionnaires utilisent alors tout ce qui est fait, les leviers, donc la loi, les niches fiscales, mais aussi des leviers comme les holdings, hein, parce que on voilà, qui permettent de ne pas avoir de revenus. Est-ce que tout ça c'est juste? Nous, on considère que c'est pas juste. D'autant plus dans une situation où on nous dit que tout le monde doit faire un effort, que tout le monde doit se serrer la ceinture, alors qu'il y a une dette, il y a des déficits qui explosent et qu'on ne regarde pas ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est les recettes de l'État, et l'impôt sur le revenu participe aux recettes de l'État, et ce n'est pas juste que une minorité utilise à travers et avec des avocats fiscalistes la possibilité de ne pas payer de l'impôt sur le revenu.
Merci beaucoup Sandra Demarque d'avoir défendu donc votre parti pris ce matin. Secrétaire générale de Solidaires Finances Publiques, c'est le syndicat de la direction générale des impôts. Et merci à Jean-Christophe d'être venu en débattre avec nous. N'hésitez pas, vous nous appelez au 3216. Par ailleurs, je précise, vous avez mentionné la Cour des comptes. Camélie Bonchalin aujourd'hui est justement devenue la patronne de la Cour des comptes. Il est 7h20 sur RMC. L'historien d'Apolline Matin vient de rentrer dans ce studio. Arthur Chevalier, salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, deux assistants parlementaires du député LFI Raphaël Arnaud sont toujours en garde à vue après la mort de Quentin de Ranc à Lyon. Tous des proches du groupe antifasciste, la Jeune Garde.
Oui, l'antifascisme, ça remonte aux années 30. Alors à l'époque, il y avait de vrais fascistes. Aujourd'hui, Mussolini n'est plus au pouvoir. Mais ces groupuscules continuent de faire le coup de poing.
Vous allez remonter le temps. Arnaud Demanche arrive aussi pour pirater le face-à-face. Mon invité, c'est Gérald Darmanin. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC. Il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et vous êtes bien sur RMC. On va remonter le temps, comme chaque matin, avec Arthur Chevalier. Arthur, 5 jours après la mort de Quentin de Ranc, un groupuscule est au cœur de l'enquête et du débat politique. La Jeune Garde. Parmi les 11 personnes en garde à vue, il y a plusieurs membres de ce groupe antifasciste, dont les deux assistants parlementaires du député LFI, Raphaël Arnaud, qui a d'ailleurs été le cofondateur de La Jeune Garde. C'est quoi ce mouvement, Arthur?
Alors déjà, c'est un groupe officiellement dissous par le ministère de l'Intérieur, hein, en juin 2025, mais la France insoumise est restée proche de la plupart de ses membres. Avant-hier, Jean-Luc Mélenchon a même réaffirmé, je cite, sa grande affection pour la Jeune Garde, des propos très engageants et quand même assez embarrassants. Hein.
D'où vient la Jeune Garde?
Alors à l'origine, c'est un groupe antifasciste assez classique. Hein. Son cofondateur, c'est donc le député LFI Raphaël Arnaud. Sa date de création, c'est 2018, et son but affiché, c'est lutter contre l'extrême droite. Au départ, ça vient de la ville de Lyon, une ville où les groupuscules d'extrême droite ont toujours été assez nombreux et très violents. La Jeune Garde voulait donc les combattre, et son slogan est clair, ce slogan, le voici, face à l'extrême droite, riposte immédiate.
C'est quoi leur idéologie?
Alors c'est l'antifascisme. L'antifascisme, un courant qui date des années 30, et qui était fait, comme son nom l'indique, pour combattre les fascistes. À l'époque, il y avait d'ailleurs de vrais fascistes, hein. Mussolini était au pouvoir en Italie, Franco était au pouvoir en Espagne. Depuis, le fascisme n'est plus au pouvoir, mais l'antifascisme, lui, ne disparaît pas. Et dans les années 70, il reprend des couleurs, mais cette fois-ci avec des méthodes terroristes. Notamment en Italie, le plus connu de ces groupes terroristes, ce sont les Brigades Rouges. Et les Brigades Rouges, c'était très violent, puisque en 1978, elles vont jusqu'à enlever et assassiner un ancien Premier ministre socialiste, il s'appelait Aldo Moro. Son corps est retrouvé dans le coffre d'une voiture, la sidération était totale.
En France, est-ce qu'on a eu des mouvements comparables?
Alors surtout un, ça s'appelait Action Directe, un groupe d'extrême gauche, lui aussi ouvertement terroriste et révolutionnaire. Entre 1979 et 1987, ses membres commettent 80 attentats, vols, braquages à main armée, mais aussi des meurtres. Ils s'attaquaient aux puissants, hein, puisqu'en 86, en plein Paris, ils assassinent à coups de pistolet Georges Bess, l'ancien PDG de Renault. Alors pourquoi ce meurtre? Apparemment parce qu'il avait, selon eux, licencié trop de monde. Les coupables sont arrêtés et condamnés à la réclusion à perpétuité. Clap de fin pour Action Directe.
Mais la Jeune Garde antifasciste se revendique, elle, d'être un mouvement non violent ?
Alors, leur doctrine, c'est ce qu'ils appellent l'autodéfense. Alors, l'autodéfense, voilà le principe. On est prêt à se battre, mais seulement si on est attaqué. Alors, une fois qu'on a dit ça, les faits ne correspondent pas exactement à la réalité, hein. Même avant le meurtre de Quentin de Ranque, il y a eu des affaires très problématiques. En 2021, après une manifestation à Lyon, 6 personnes, dont Raphaël Arnaud, s'en prennent à un garçon de 18 ans qui n'avait rien demandé. Il le force à retirer son blouson, le projette au sol, le batte. Résultat, Raphaël Arnaud est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence en réunion. Donc oui, ce mouvement est lié à la violence et n'hésite pas à faire le coup de poing.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. On va accueillir tout de suite Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Et bonjour Arnaud. Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.
Oh oui, de l'humour, de l'humour. Nous reviendrons évidemment sur les conséquences de la mort de Quentin de Ranque. Hier, un deuxième assistant parlementaire LFI a été interpellé. Ah, la vache, hein. Au RN, les assistants parlementaires, ils volent des sous à l'Europe. Chez LFI, ils tuent des gens. Faut qu'ils revoient le casting de leurs assistants chez les extrêmes. Ça suffit. La jeune garde avait subi une dissolution administrative. Alors ça m'a toujours intrigué. Tu sais, on entend souvent les néo-nazis du Puy-de-Dôme, dissolution administrative. La jeune garde de Lyon, dissolution administrative. J'ai quand même pas l'impression que c'est des gens qui s'embarrassent beaucoup avec l'administratif. Non. Quoi. Et il leur faut juste un groupe WhatsApp, mais je pense pas que le mec de la jeune garde, au moment où il frappait Quentin de Ranque avec ses potes, il se soit dit « Sapristi, c'est illégal, on n'a pas le droit !» Nous sommes dans l'illégalité, les copains. J'ai oublié de remplir le bon formulaire CERFA. Comme disait Che Guevara, viva l'administration. J'ai pas l'impression. Alors Gérald Darmanin souhaite une peine d'inéligibilité contre toute personne condamnée pour avoir encouragé à la violence physique, ce qui met instantanément un terme aux ambitions politiques de Teddy Riner. Ça c'est... La mort de Quentin de Ranque a fait une victime collatérale inattendue, Dylan Guichaoua. Vous savez qui c'est ? C'est le délégué des jeunes du RN des Pyrénées-Atlantiques, parce que pour rendre hommage à Quentin de Ranque, un compte d'extrême droite a généré un visuel, mais ils se sont gourés de photos. Ils ont pris celle du Dylan en question qui, il s'est retrouvé imprimé sur tous les drapeaux avec marqué « Hommage à notre ami décédé ». Donc il est pas content, il dit « Mais moi je suis pas mort, moi !» Ce à quoi la jeune garde a répondu « Laisse-nous 5 minutes, le temps de remplir le bon formulaire CERFA. Bah, » L'ambiance est bourrine. Hein. Vous m'excuserez, je m'adapte, je fais avec ce que j'ai comme matériel. Vous savez, Pauline, dire que la semaine dernière, on trouvait que la pédocriminalité dans l'affaire Epstein, c'était un sujet délicat.
Oui, c'est vrai que là, on est passé d'un beau sujet à un beau sujet.
Qu'est-ce qu'on était naïfs, mais on ne savait pas. Allez, rendez-vous avec Gérald Darmanin pour 20 minutes de bonne humeur à 8h30. À tout à l'heure.
Il est 7h27, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Restez bien avec nous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Guitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Témoignage RMC ce matin. Un ancien militant de l'UNI dénonce les méthodes brutales de Jacques-Élie Favreau, ancien collaborateur du député insoumis Raphaël Arnaud, impliqué dans la mort de Quentin de Ranque à Lyon. Des crues exceptionnelles, historiques, frappent l'ouest de la France. Nous irons à Saintes en Charente-Maritime où les sauveteurs en mer sont réquisitionnés pour venir en aide aux habitants. Et plus d'un million de comptes bancaires piratés en France, vous saurez bientôt si vous êtes concerné.
RMC vous révèle ce matin le récit choc d'un militant agressé par Jacques-Élie Favreau.
Paul, ancien militant de l'UNI à Saint-Étienne, association universitaire de droite, affirme avoir été agressé en 2023 par Jacques-Élie Favreau, ancien collaborateur du député insoumis Raphaël Arnaud, soupçonné d'avoir passé à tabac à Quentin de Ranque à Lyon. Julie Brault du service police-justice d'RMC, vous avez donc rencontré Paul qui dénonce ses méthodes brutales au sein de la jeune garde.
C'était il y a près de 2 ans et demi. Paul et d'autres militants de l'UNI, association étudiante de droite, étaient en pleine opération de tractage sur le campus de l'université de Saint-Étienne, quand tout à coup, des membres du groupe antifasciste, la Jeune Garde, les ont pris à partie.
Ils commencent à nous entourer, tenter de nous arracher les tracts, de demander de partir en nous menaçant notamment de violences physiques. Et Jacques-Élie Favreau se jette sur moi, me porte quelques coups.
Est-ce que vous avez été blessé ?
Ce qui s'apparentait à une entorse au poignet. Et quelques bleus.
Paul n'a pas porté plainte, estimant que ses blessures étaient légères, mais il a conservé une appréhension face à celui dont il redoutait systématiquement de croiser le chemin. Une véritable brute envoyée pour taper et faire fuir ses opposants, dit-il.
Il faisait partie de ceux qui, comme ils le disent si bien, c'est leur expression, pas la nôtre, tuer l'extrême droite dans l'œuf. Monsieur Favreau est aujourd'hui, il est quand même en garde à vue pour le meurtre d'un gamin de 23 ans. C'est extrêmement triste, c'est même horrible, mais ça m'étonne pas. On savait tous que ça finirait par arriver.
Jacques-Élie Favreau est déjà connu pour des faits de violence. Contacté au sujet de cette agression, son avocat n'a pas répondu à nos sollicitations.
Jacques-Élie Favreau reconnaît avoir commis des violences, mais pas avoir porté les coups mortels sur Quentin de Ranque. Deux autres collaborateurs de Raphaël Arnaud font partie des 11 personnes placées en garde à vue. Le gouvernement lui demande à l'EFI d'exclure temporairement son député de son groupe à l'Assemblée. Pas question pour les insoumis de le lâcher.
Et on en parlera à 8h30. Mon invité dans le face-à-face, ce sera Gérald Darmanin, le ministre de la Justice.
L'ouest de la France face à des inondations exceptionnelles. Maisons, routes inondées, communes coupées du monde. Et cela devrait être la journée la plus critique pour les débordements. Toujours 4 départements en vigilance rouge. Le Maine-et-Loire, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Charente-Maritime. Justement, à Saintes, où vous êtes envoyé spécial RMC Amélie Courtet, les habitants ont reçu l'aide de sauveteurs en mer.
Vous allez vous laisser tomber tranquillement en arrière, on vous retient, ok ?
Combinaison orange, casque jaune sur la tête, à bord de leur Zodiac.
Voilà, super monsieur !
Ces trois sauveteurs en mer aident Jack à sortir de son appartement entouré par un mètre d'eau.
C'était difficile de rester, tout le monde était parti, plus d'électricité, disons que j'avais le bourdon.
Donc là, vous êtes rassuré de rentrer chez votre sœur?
Ah bah oui, j'espère qu'elle a préparé un bon petit plat.
On avait dit qu'on ferait des crêpes avec les enfants.
À peine le pied posé à terre,
tu te souviens de la rue ?
Les sauveteurs retournent à l'eau pour secourir Edith.
J'ai tellement eu peur.
Chez elle, tous ses meubles flottent et l'eau continue de monter.
J'aurais voulu rester, mais vu mon âge, 75 ans, je suis toute seule. S'il m'arrive quelque chose...
C'est par solidarité que le trio de sauveteurs a temporairement délaissé l'océan Atlantique. Brian est le responsable.
On est spécialisé un peu sur le domaine maritime, mais on a quand même des moyens, on a des nageurs qui sont formés pour évacuer des personnes, donc on a profité aussi de cette occasion pour aider la mer.
Un renfort inédit et indispensable, confirme la mairie, démunie, car une quinzaine de rues sont désormais accessibles uniquement par bateau.
Autre conséquence de ces inondations, 7 communes de Gironde n'ont plus accès à l'eau potable depuis lundi et la ville de Bordeaux a déclenché un plan communal de sauvegarde, une première depuis 1999. Nous serons en direct de Bordeaux dans le journal de 8h. RMC 7h34, une faille frappe le cœur des données bancaires des Français. 1,2 million de comptes en danger, annonce le ministère de l'économie. Et ils ont été consultés illégalement depuis fin janvier, Romain Houg.
Oui, Bercy ne précise pas qui est véritablement derrière ce vol de données. Une personne seule ou un groupe d'individus. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'auteur a usurpé les identifiants d'un fonctionnaire qui avait accès au FICABO, un fichier recensant l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France. Les données qui ont fuité sont nombreuses. Le RIB, l'IBAN, l'identité du titulaire, son adresse et dans certains cas, l'identité fiscal de l'usager, indique Bercy, qui précise toutefois que rien ne permettrait de consulter le solde des comptes bancaires ni de réaliser un paiement par carte ou de faire un virement. La Fédération bancaire française invite quand même à la plus grande prudence. Les fraudeurs peuvent dans certains cas demander l'exécution de prélèvements à partir d'un IBAN ou souscrire à des abonnements ou des services. Bercy va contacter les personnes concernées par cette fuite, mais en attendant, mieux vaut consulter régulièrement son compte dans le détail pour détecter toute anomalie et contester sans délai tout mouvement suspect.
Romain Houg, des parents d'élèves, accusent dans une tribune publiée ce matin dans Libération la mairie de Paris et l'école de silence face à des violences sexuelles sur des enfants dans une maternelle du 3e arrondissement. Anne Hidalgo reconnaît une part de responsabilité mais assure avoir agi. Les familles réclament justice pour leurs enfants traumatisés par des faits commis entre 2018 et 2019 par un animateur qui a été suspendu par la ville. RMC, 7h36, nouvelle chance de médaille aujourd'hui au JO de Milan.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
L'heure est venue pour Vincent Maharavo en ski halfpipe. Le skieur freestyler s'apprête à vivre le rendez-vous le plus important de sa carrière, porté par un rêve d'enfant devenu réalité.
Vincent Maharavo est son propre patron. Il a créé sa structure. Oui, la Fédération Française de Ski n'a pas d'équipe de France de halfpipe et il est le seul athlète à lui de tout payer. Coach, kiné, préparateur physique.
Moi, je fais des saisons, ça peut paraître beaucoup, mais qui me coûte environ 40 000 euros. Ce qui me coûte très cher, c'est surtout le salaire de la coach, les déplacements de la coach, parce qu'en fait, je fais des saisons fois deux. Je me limite quand même assez sur le confort.
Maharavo finance la moitié de sa saison avec ses sponsors personnels, des aides régionales et son poste de réserviste à l'armée. Il a aussi contracté un prêt auprès de sa banque. Pour le reste, le skieur se mue en MacGyver. Il a un food truck, a vendu des crêpes sur un marché et son chalet dans les Pyrénées, il le loue.
Il y a eu quelques fois, la saison dernière par exemple, où ma maison était louée et quand je rentrais de Coupe du Monde, j'avais nulle part où dormir puisque mon chalet était loué. Et donc je dormais dans ma voiture, sur le parking, devant chez moi. Donc je voyais mes locataires rentrer dans ma maison.
Les Jeux, un coup de projecteur pour le sortir de la précarité.
Reportage de Morgan Moriabibay, coach de l'OM. Le club l'a officialisé cette nuit. Objectif, soulever la Coupe de France et monter sur le podium de la Ligue.
Et puis le Quintet Vincennes, 13h55.
Et le pronostic de la Dream Team des concerts RMC, leur favorite, est le 15, Guess Fouto, et leur outsider est le 7, Franco Fleury.
C'était le journal de Clément Guidi, les 7h38. On part au 32-16, vous êtes nombreux à réagir à la fois à ces chiffres considérés comme explosifs, parce que niés d'abord par la ministre du budget elle-même, il y a 13 000 foyers fiscaux millionnaires qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Mais Magali, justement, vous vouliez remettre les choses en perspective. Bonjour Magali.
Bonjour Apolline.
Comment ça va? Vous êtes comptable à Colmar, donc dans le Haut-Rhin. Vous avez écouté mon invité à 7h10, qui représente le syndicat de Bercy, enfin en réalité de la branche impôt de Bercy. Je vous écoute Magali.
Voilà, moi j'ai réagi tout de suite parce que ça m'agace de dire toujours oui, il y a des niches fiscales, les gens ils se jettent dedans. Sauf que là, en l'occurrence, elle a cité les femmes de ménage.
Oui.
Les gens qui profitent de cette niche, effectivement, il y a une réduction d'impôt hein, autour de 50%, mais en même temps, ça fait travailler des gens. Moi, oui. Je travaille, en ce moment, c'est pas difficile, je travaille 8h, 20h, hein. Oui. J'ai pris une femme de ménage, et je me dis, à chaque fois qu'elle vient, je me dis, mais au moins, cette dame, c'est une dame dans la précarité, qui a des difficultés, mais au moins, la fête qu'elle vienne chez moi, qu'elle fasse le ménage, c'est 2 heures de travail, où elle n'est pas au chômage, où elle n'est pas, en même temps, indemnisée, du coup, par l'État aussi. Alors, évidemment, c'est plus les impôts, c'est une autre branche de l'État qui va financer le chômage.
Mais c'est vertueux, pour vous, c'est vertueux. C'est ça ce que vous voulez dire. Et effectivement, on se souvient aussi d'ailleurs que quand cette niche fiscale, comme on l'appelle, en réalité c'est une déduction en effet, c'est une sorte de crédit d'impôt qui a été créée, c'était aussi précisément parce qu'on constatait qu'une partie de ces emplois n'étaient pas déclarés. Là, non seulement ça permet de les déclarer, mais en effet, ça encourage aussi à pouvoir déduire. Magali, vous y pensez, et si vous n'aviez pas eu cette déduction d'impôt, vous pensez que peut-être vous n'auriez pas pris cette femme de ménage?
Je pense que ça fait effectivement partie des choses où ça a été mis en perspective. Enfin, moi, j'ai une aide de mon employeur par le comité d'entreprise. Donc, je peux bénéficier à la fois de l'aide de mon employeur et à la fois de la niche fiscale. Mmh. Et évidemment, ça me revient pas très cher, mais j'en profite.
Ça fait partie aussi, effectivement, du deal. Merci beaucoup, Magali, et bon courage, puisqu'effectivement, en ce moment, vous avez l'air d'avoir des très longues journées. Vous êtes charrette, comme on dit. Magali, qui nous appelait de Colmar, comme elle, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 32-16. Il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et c'est le moment des fameuses négociations entre grande distribution et producteurs de l'agroalimentaire. Coup de pression, tension, ça coince encore plus que d'habitude. Ils accusent la grande distribution de vouloir détruire l'agroalimentaire. Ça, c'est ce que disent les marques que vous représentez. Jean-François Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes partie prenante dans ces négociations puisque vous représentez les industriels de l'agroalimentaire. Est-ce que vous allez finir par vous entendre et quelles conséquences pour les prix dans les rayons? Je vous pose la question dans un instant. On va plonger avec vous dans les coulisses de ces négociations. 7h41.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44 et vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story Canal 23. Quel prix pour nos produits dans les rayons? C'est en ce moment que ça se joue et on va prendre le temps ce matin d'y voir plus clair dans les négociations commerciales. Elles ont débuté il y a un mois, elles se terminent dans 10 jours, le 1er mars à minuit. Jean-François Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'ANIA, c'est l'Association Nationale des Industries Alimentaires. Vous représentez la charcuterie avec Herta et Prunier, vous représentez des laitages, Malo, Danone, des biscuiteries, Jacquet, biscuits, des bonbons Haribo, toutes les marques que l'on trouvera ensuite dans nos rayons. C'est en ce moment même qu'elle négocie avec la grande distribution. Et on a l'impression que c'est plus violent que d'habitude. Vous accusez même la grande distribution de vouloir, je vous cite, détruire le tissu industriel français en tirant volontairement les prix vers un bas trop bas, c'est-à-dire ?
Depuis 15 ans à peu près, systématiquement, les prix des produits alimentaires doivent baisser pour le consommateur. Alors, ils ne doivent pas être chers. D'ailleurs, je précise au passage que ce sont les distributeurs qui fixent le prix des produits dans les rayons. Ce ne sont pas les 22 000 entreprises agroalimentaires que je représente. Et dans ces 22 000 entreprises, je le précise, il y a 98% de TPE, c'est-à-dire des toutes petites entreprises et de PME.
Des biscuiteries familiales.
Familiales, des entreprises familiale. Et dans tous les départements français. Et donc, pendant cette période-là, qui part du 1er décembre jusqu'à la fin du mois de février, il y a une compression de tension parce que il faut négocier. Donc des possibilités d'aller vendre dans les grandes surfaces, et nous en avons besoin, les grandes surfaces, et qui représentent 70% de l'offre en rayon.
Mais qui est le maître du jeu ? J'aimerais quand même comprendre comment ça se passe. La plupart du temps, ça se passe dans des box. Vous avez effectivement les représentants de vos marques qui arrivent avec leur cahier des charges. Vous avez face à vous un représentant de la grande distribution qui va vous dire « Moi, je veux tel volume de produits, mais je te les achète à temps. » Et est-ce que vous avez une petite marge ? Est-ce qu'il y a du temps ? Est-ce que vous pouvez discuter ? Comment ça se passe concrètement ?
Alors, en France, il y a trois chiffres simples. À peu près 500 000 agriculteurs, à peu près 20, 22 000 entreprises, à peu près 4, 5 distributeurs, les majors. Hein. Donc là, je dirais que la messe est dite en termes de pression et d'influence.
Quand la nous arrivons, concentration de la grande industrie, de la grande distribution fait que finalement, vous n'avez plus beaucoup de marge.
Donc, on n'a pas beaucoup de marge. Et notamment les PME, je le précise. Et donc, quand une PME arrive pour proposer ses produits, elle dit, moi, j'ai eu des hausses de salaire. Il faut bien payer les salaires. J'ai eu des hausses d'énergie, d'assurance, de taxes, de charges classiques. Donc, je dis à mon distributeur, j'ai besoin de plus 3% d'augmentation sur ces produits-là. Le distributeur, systématiquement, mais ça, c'est culturel en France de la part de nos distributeurs, c'est tout de suite moins. Non, c'est moins. L'alimentaire, c'est moins. Mais c'est le seul, je dirais, produit vendu aujourd'hui en France où systématiquement, il faut vendre moins cher. L'alimentation, c'est un prix, c'est un coût, c'est une valeur. Et que fait-on du travail des agriculteurs, du travail des 20 000 entreprises ? On veut la meilleure alimentation, et nous avons la meilleure alimentation. Bien, moi, je regrette, elle mérite un prix juste. Et nous n'avons pas le droit d'être, je dirais, un petit peu estorqués hein, pendant ces derniers mois et ces dernières semaines sur l'autel, finalement, du pouvoir d'achat. Et finalement, nous nous rendons compte que ce sont les distributeurs qui font une guerre terrible entre eux, justement, pour se prendre des parts de marché.
À la fin, on arrive à combien ? À quelle part, pour vous, d'inflation, on va arriver ?
Alors, heureusement, il n'y a plus l'inflation qu'on a connue pendant la période de crise, notamment à cause de la guerre. Et c'est pour cela que les prix avaient beaucoup augmenté. Donc, nous avons en moyenne, je dis bien, demandé 2,5 à 3,5% d'augmentation. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, les salaires, les assurances, les transports, l'énergie, etc. Et les négos vont se terminer, comme toujours, entre 0 et moins 4, 0 et moins 7. Alors, quelquefois, il y a quelques hausses obligatoires. Et il ne faut pas oublier une chose essentielle.
Entre 0 et moins 7 ?
Mais 0, moins 3, 0, moins 4.
Pour vous, ceux qui produisent, vous n'augmenterez pas vos prix.
Exactement.
Donc s'ils augmentent dans les rayons, ça veut dire que ce sera la grande distribution qui aura augmenté sa marge.
Mais c'est vous qui le dites, exactement. Mais depuis des années, il y a eu systématiquement des baisses de négociation de prix entre l'industriel, quelle que soit sa taille, et la grande distribution. Et je voudrais rappeler quand même que le synchro-sein, nous l'avons tous dit, c'est pour ça que nous avons signé une charte, c'est que le prix de la matière première agricole doit être sanctuarisé. Ça veut dire on paye aux agriculteurs le vrai prix des produits agricoles. Mais ça veut dire qu'entre le prix du produit agricole qu'il faut officialiser et respecter et le prix en distribution, il y a une espèce de goulot d'étranglement. Et l'industrie, quand je dis l'industrie, je parle des petites entreprises que je connais très bien, elles sont prises dans ce goulot d'étranglement.
Et moi, je voudrais essayer de comprendre la différence entre le chiffre que vous nous annoncez. C'est-à-dire, vous nous dites, à la fin des négociations, on va se retrouver avec moins 0,7...
Alors, ça peut être plus 3. Hein.
Et 0. Et de l'autre côté, on a, par exemple, hier, Alexandre Bompard, qui est le patron de Carrefour, qui dit qu'à la fin, on va se retrouver avec à peu près 1% de hausse. Donc, comment ça se passe? Comment c'est possible qu'on arrive à une différence?
Mais de toute façon, on comptera, hein, à la fin de, je dirais, de cette période, malheureusement, beaucoup de dégâts dans l'agroalimentaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont en majorité des petites entreprises.
Je voudrais comprendre, ça veut dire que vous, on va vous acheter vos produits au même prix que l'an dernier, voire un peu moins cher.
Oui.
Mais à la fin, ils seront vendus 1% de plus que ce qu'ils n'étaient cette année.
Ah, mais ils peuvent être vendus beaucoup plus cher. Je le répète, c'est la grande distribution.
Donc le chiffre que donne la grande distribution, en fait, il ne reflète pas vos échanges. Il reflète les prix que eux décideront à la fin de mettre dans les rayons.
In fine, ce sont eux qui décident du prix qu'ils mettront en grande distribution.
Vous dites, vous alertez ce matin, il y a tout un tissu d'industrie agroalimentaire en France qui va disparaître.
Il y a malheureusement
qui est menacé.
Un tissu d'industrie qui va disparaître et qui est menacé. Mais on ne le voit pas beaucoup. Vous savez, c'est comme cette petite piste bleue là au ski, là, c'est la période. Petite descente, tous les ans ça baisse. Regardez le commerce agroalimentaire. Nous étions sur le podium, les troisièmes il y a 15 ans. En termes d'exportation, nous en avons tous besoin, quelle que soit la taille des entreprises. Nous sommes aujourd'hui importateurs. Importateurs alors
que
nous...
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on exporte moins
que l'on importe. Donc c'est un vrai drame. Et donc les entreprises, eh bien, elles mangent leur capital, elles mangent leur retraite, elles n'investissent plus dans l'innovation, dans la décarbonation. Elles ne peuvent pas payer correctement les salaires. C'est ça notre problème. Et dans le monde de la ruralité, nous avons des entreprises partout. Il faut payer les salariés mieux et correctement.
Merci d'avoir alerté ce matin. Jean-François Loiseau, vous êtes donc le président de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires. Et on continuera évidemment à suivre ces négociations qui se poursuivent jusqu'au 1er mars minuit. C'est la voix de gauche ce matin puisqu'il est 7h51 et c'est Cécile Duflot qui vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Vous vouliez revenir sur le climat de tension en politique après la mort de Quentin Derenck samedi à Lyon.
Oui, la politique c'est parlementer, c'est régler les conflits par la parole et pas par les coups de pied et les coups de poing. Il faut que tout le monde se calme.
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h52 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, nous sommes jeudi, c'est la voix de gauche dans un instant. Mais d'abord le bonus, Mathieu, avec une surprise ce matin, un retour.
Oui, on va reconnaître le style et la voix qui fait... C'est bien U2 qui a publié hier un mini-album de 6 titres surprises, Days of Ash, 6 titres de pure U2, du rock, des ballades, un poème mis en musique aussi. 6 titres engagés, hommage à Renée Nicole Good, la militante de Minneapolis, tuée par la police de l'immigration en janvier. Toutes les causes, ou presque, y passent. Femme, vie, liberté en Iran, la guerre à Gaza, la guerre en Ukraine. Nous discutons beaucoup du moment opportun pour sortir de nouveaux titres, dit le batteur de U2. Et au vu de la situation actuelle dans le monde, le moment semble bien choisi, ajoute-t-il. L'album se termine par un morceau écrit et interprété par U2, Ed Sheeran et Taras Topolia, un chanteur ukrainien. C'est une chanson qui s'appelle Yours Eternally.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
7h54, nous sommes jeudi et le jeudi, c'est la voix de gauche. Cécile Duflot, deux des assistants parlementaires du député LFI, Raphaël Arnaud, sont toujours en garde à vue ce matin après la mort de Quentin Derenck. Et ce matin, vous vouliez lancer un appel au calme.
Oui, il faut faire baisser la violence politique et c'est la responsabilité des politiques justement. Parce que Quentin Derenck n'est pas mort dans une bagarre classique, il est mort lors d'un affrontement entre deux bandes, très organisées, très politisées et même, on peut dire, polarisées. Et dans une démocratie qui fonctionne normalement, tout le monde aurait été consterné, désolé, aurait condamné et aurait appelé à ce que la police et la justice fassent leur travail le plus rapidement possible.
Donc vous dénoncez une forme de surenchère, Cécile ?
Oui, parce qu'on a assisté quand même de ces derniers jours à une forme de surenchère mutuelle entre le gouvernement et des ministres qui se sont exprimés de manière pas du tout prudente, entre certaines personnalités politiques et aussi les représentants de LFI qui sont de fait impliqués, étant donné que un de leurs parlementaires est très lié aux mises en cause des coups qui ont entraîné la mort du jeune homme. Donc il y a cette réalité de cette intrication avec la politique.
Pour vous, le climat politique en France, il est inquiétant ?
Tout ça s'inscrit en plus dans une montée des actes de tension et de violence autour des politiques et au sein du débat politique. Autour, il y a eu des attaques de permanence, il y a eu des harcèlements sur les réseaux sociaux, des manifestations devant les domiciles, ça ne se faisait quand même pas du tout. Et hier encore, le dépôt d'une bombe artisanale dans le jardin d'un des ingénieurs du projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. On peut aussi dire que les débats parlementaires se sont fortement tendus. Il y a eu beaucoup de procédures disciplinaires, beaucoup de cris, d'invectives, des accrochages. C'est un souci.
C'est pas tout à fait nouveau.
C'est vrai, c'est pas nouveau. Il y a eu plein de moments de violence aux politiques, y compris des parlementaires qui réglaient leurs différends dans des duels. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que justement, le principe même du débat parlementaire, c'est de parlementer, c'est de résoudre les conflits par la discussion, par l'échange. Et là, aujourd'hui, ce qui me semble problématique, c'est qu'une partie des politiques essaye pas de résoudre et de faire baisser les conflits et la tension dans la société, mais au contraire, ils les attisent, et notamment du côté de l'extrême droite, qui aujourd'hui sont en situation de donner des leçons, alors qu'ils ont eux aussi été très dans l'alimentation et dans l'incitation à la tension autour des faits divers, par exemple. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a deux auteurs, Emmanuel Rivière et Nicolas Prissette, qui ont étudié cette soi-disant tension française dans un livre qui va paraître le 5 mars, que j'ai eu la chance de connaître, et qui s'appelle « La guerre civile n'aura pas lieu ». Et le résultat de leur travail, il est édifiant, parce que la société française se perçoit comme violente, elle reproduit le discours politique. Plutôt, c'est une sorte de miroir qui lui est tendu par les politiques, mais parce que ce qui est intéressant, c'est quand on pose la question aux gens, et vous, dans votre environnement proche, dans votre village, dans votre vie personnelle, ben là, ils ne constatent pas de violence. Donc, en fait, c'est vraiment cette perception.
Mais cette perception, justement, ils en perçoivent quoi, eux, du climat de violence en politique, les Français?
Ben là aussi, ils sont très, très opposés. Donc, je veux le dire à tous les politiques qui croient que la société se polarise et qu'il faut accentuer cette polarisation. La violence est rejetée comme un moyen de l'action politique par 80% des Français. Et c'est très stable. Depuis 10 ans, ça ne bouge pas. Et donc, je pense que les politiques seraient bien inspirées de redonner du calme, de l'apaisement et de la modération, ce qui n'exclut ni les divergences, ni les débats politiques, ni le fait de clarifier les responsabilités dans des situations dramatiques. Mais dans un moment où toute notre énergie collective devrait être mobilisée pour faire face à des défis bien plus complexes, ce sont les tensions géopolitiques, et vous en parlez à longueur de journée, les conséquences du dérèglement climatique. La France est directement menacée. Nous avons besoin d'unité nationale.
La voix de gauche le jeudi sur RMC, Cécile Duflot. Dans un instant, il est 7h58, on se retrouve pour la météo et le journal. Et puis l'économie aussi, ce sera avec Emmanuel Le Chypre. Attention, les stations-service sont en danger, il nous le dit dans un instant, 7h58.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.